bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, une émission qui explique les sujets européens pour combattre les idées reçues avec Tania Rachaud. Cette émission spéciale sur le thème de la bioéthique est réalisée par Leobardo Arango en partenariat avec l'Université de Lorraine, Les Surligneurs et Amicus Radio.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons trois sujets qui illustrent parfaitement l'évolution constante des techniques d'assistance médicale à la procréation, mais aussi et surtout finalement les questions éthiques, juridiques et humaines qu'elles peuvent soulever. Nous commencerons par le diagnostic pré-implantatoire des aneuploïdes ou DPIA, une technique qui permet d'analyser le nombre de chromosomes des embryons avant leur transfert, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Nous nous intéresserons ensuite à la méthode et loi ROPA pour réception d'ovocytes de la partenaire, une approche destinée aux couples de femmes qui souhaitent partager biologiquement leur projet parental, une pratique qui redéfinit les modalités de la maternité partagée. Et enfin, nous aborderons la question particulièrement sensible de la procréation post-mortem. Peut-on concevoir un enfant après le décès de son conjoint ou de sa conjointe ? Nous y répondrons donc avec une série d'invités. Ces trois thématiques sont choisies parce qu'elles sont au cœur de l'actualité et de la reproduction assistée, qui nous invite finalement à réfléchir aux frontières entre le progrès médical, le désir d'enfant et le cadre juridique. Pour en discuter, nous avons la chance d'avoir autour de la table quatre personnalités. Et tout d'abord, Maria Fartunova, qui chapeaute cette rencontre. Maria est professeure de droit public à l'Université de Lorraine et titulaire de la chaire Jean Monnet, bioéthique et gouvernance européenne. Alors peut-être avant de présenter les autres invités, Maria, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le cadre européen de cette discussion autour de ces sujets de reproduction ?
Bonjour Tania, merci beaucoup pour votre présence et d'avoir répondu positivement à cette sollicitation. Alors, la question de la procréation médicalement assistée bénéficie aujourd'hui des interrogations européennes très soutenues, à la fois d'un point de vue évolution de la législation européenne, mais aussi d'un point de vue de la jurisprudence. C'est en ce sens-là aussi, il m'est paru particulièrement intéressant d'interroger nos trois invités aujourd'hui sur ces trois questions, compte tenu que actuellement soutiennent les États généraux de la bioéthique qui discutent d'une potentielle évolution de la législation nationale également sur ces questions. Alors, d'un point de vue purement européen, le contexte européen il est marqué par une évolution de la législation pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'il y a des nouvelles propositions qui ont été effectuées par la Commission européenne en décembre 2025, notamment pour créer et adopter un nouvel acte normatif, un nouveau règlement qui serait potentiellement le nouveau Biotech Act, European Biotech Act, des nouvelles biotechnologies dans le domaine de la santé. La question de l'utilisation des biotechnologies, des cellules reproductrices ou bien des éléments de provenance du corps humain sont au cœur, bien sûr, de cette nouvelle législation et donc qui doit être à nouveau discutée, non pas d'un point de vue utilisation de recherche et innovation, mais également dans le cadre de l'utilisation de ces cellules pour des nouvelles techniques de procréation médicalement assistée. Ce qui fait, dans une certaine mesure, le règlement SOO, substance d'origine humaine, qui sera applicable à partir du 1er août 2027 et qui entraîne déjà au niveau national des modifications structurelles, institutionnelles, mais aussi peut-être normatives. Cela, c'est le premier point qui m'a paru du contexte européen très intéressant. La seconde raison pour ce podcast qui s'inscrit dans la continuité de la première est bien sûr l'épanouissement personnel du citoyen, de l'individu, qui s'effectue aujourd'hui grâce à l'approche très libérale de son droit de libre circulation. La Cour de justice, ces dernières années, a construit un véritable statut du patient citoyen au sein de l'Union européenne avec un droit presque illimité d'accéder à des soins médicaux transfrontaliers, y compris en vue d'une procréation médicalement assistée, ce qui crée des quiproquos, des situations juridiques complexes, compte tenu de la disparité des législations nationales sur la reconnaissance des statuts de l'enfant ou de la famille tout court ou de l'état civil qui peuvent en résulter. C'est en ce sens, il me semble important aujourd'hui d'avoir ce regard un peu croisé entre ce qui se passe au niveau national, la tendance observée au niveau de l'Union européenne, au niveau européen, pour mieux capter et comprendre les enjeux éthiques que cela soulève et qui touchent in fine toute personne et donc nous aussi.
Merci beaucoup Maria pour ces précisions et on comprend que toutes les discussions autour de la reproduction vont continuer de nous animer dans les prochaines années justement avec cette législation européenne. Alors autour de la table donc on a aussi le docteur Sylvie Epelboin, gynécologue obstétricienne au Centre d'assistance médicale à la procréation à l'hôpital Bichat. Vous êtes notamment autrice d'un livre sur le désir d'enfant et la médecine intitulé « J'ai longtemps cru qu'il fallait être deux », coécrit avec Élise Carlin en 2019, publié en 2019 aux éditions Grasset. Et vous êtes membre de comité d'éthique dans la profession. D'ailleurs, comme membre du bureau de la FFER, la Fédération française d'études de la reproduction, vous coordonnez la commission d'éthique.
Bonjour.
Ensuite, eh bien, Marie Ménil, maîtresse de conférences en droit privé à l'Université Paris-Saclay. Vous avez publié en 2026 deux ouvrages, finalement. Un coécrit avec Cléa Richard sur le droit des familles LGBT et vous avez coordonné l'ouvrage collectif sur les 30 ans des lois de la bioéthique. Les deux sont publiés aux éditions Lefèvre d'Alloz.
Bonjour.
Et enfin, Laurence Brunet, vous êtes juriste spécialisée dans les questions de bioéthique et de médecine reproductive, chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne Paris 1, CNRS, et vous êtes également membre d'ailleurs de comité d'éthique dans la profession. Merci d'ailleurs de nous recevoir chez vous aujourd'hui.
Bonjour et ravie de vous recevoir donc chez moi pour ce podcast.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Alors, pour démarrer, nous allons nous intéresser à ce DPIA, donc à ce diagnostic préimplantatoire des aneuploïdes. Et peut-être nous avons besoin de comprendre ce que c'est davantage. Docteur Sylvie Epelboin, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que c'est ce DPIA ?
Alors le DPIA, qui est le diagnostic donc préimplantatoire des aneuploïdies, c'est-à-dire des anomalies chromosomiques embryonnaires, est une des nouvelles demandes auxquelles les technologies d'assistance médicale à la procréation peuvent répondre. Tout à l'heure, vous disiez, Maria, quels étaient les objectifs pour la société, pour l'Europe, pour les personnes, pour le public. Il y a effectivement une évolution très importante des demandes pour une meilleure accessibilité à la parenté et le DPIA en fait partie. Néanmoins, c'est une nouvelle technique de reproduction qui soulève beaucoup d'interrogations pour les raisons que je vais tenter de vous synthétiser. Il y a un objectif médical, mais qui est aussi un objectif personnel pour les personnes, qui est l'échec de début de grossesse chez les femmes. C'est une question qui hante les femmes depuis des siècles. Un début de grossesse, une perte de grossesse, ça entraîne une souffrance extrême, notamment quand c'est à répétition. Et jusque-là, la médecine est relativement impuissante dans le sens où ces fausses couches précoces ou bien en fécondation in vitro, ces échecs d'implantation des embryons qui ont été formés, même s'ils ont l'air d'un premier regard normaux, ces échecs sont essentiellement dus à une augmentation des anomalies chromosomiques liées à l'âge féminin. Ceci, notamment, à partir de l'âge de 35 ans. Donc, quand les femmes ovulent, il peut y avoir, une fois que ces ovules sont mis en fécondation, et qu'ils atteignent en tant qu'embryon le cinquième jour, qui est le stade de blastocyste. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'arrête au cinquième jour ? Parce que c'est le jour où, après avoir cheminé dans la trompe, après avoir été vu les spermatozoïdes se sont rencontrés dans la trompe, l'embryon fait marche arrière et va retourner s'implanter dans l'utérus au cinquième jour. C'est le stade de blastocyste et c'est à ce niveau-là qu'il est possible d'aller biopsier et faire un diagnostic, notamment pour les problèmes de trisomie 13, 18 et 21, qui sont celles qui entraînent le plus de soucis d'anomalie importante ou de létalité, c'est-à-dire d'arrêt de la grossesse. Donc, il y a cette possibilité. Le DPIA existe dans un certain nombre de pays et mes collègues vont pouvoir s'étendre peut-être sur la question. Pour l'instant, il n'est pas autorisé en France et on peut se demander pourquoi, puisque on dispose de la technique et qu'il y a cette demande très importante. Donc les objectifs, ça serait de faire diminuer le taux de fausse couche et des pertes de grossesse, mais aussi des interruptions de médicales de grossesse jugées très traumatisantes par les personnes. Pourquoi est-ce que, à l'heure actuelle, dans les réflexions, le corps médical et toutes les corporations professionnelles qui réfléchissent autour de la question ne sont-elles pas totalement enthousiastes? C'est qu'il y a un certain nombre de limitations qui sont le fait que peut-être que toutes les anomalies ne seraient pas détectées, peut-être d'après la littérature médicale que finalement, à partir du nombre d'embryons obtenus au départ, il n'y a pas tellement plus de grossesses qui aboutissent à une naissance d'un enfant vivant en bonne santé. On sait que le DPIA, au-delà de 35 ans, va permettre une augmentation des naissances, mais il y a probablement un taux un petit peu moins de 20% d'embryons qui n'aboutiront jamais au stade de blastocyste. Donc, à partir du nombre d'embryons total, les chances de naissance sont à peu près équivalentes. Et c'est aussi un traumatisme pour les femmes de se dire qu'au départ, il y avait des embryons. Et puis que après biopsie, il n'y a pas d'embryons à transférer. Et il peut rester dans la tête l'idée que, et si peut-être dans mon corps, cela aurait marché, que ce soit rationnel ou non. La dernière question qui est soulevée, c'est la question de ce qu'on appelle le mosaïcisme, c'est-à-dire que certains embryons peuvent avoir des populations cellulaires, une ou deux, différentes, qui font qu'un embryon n'est pas totalement euploïde, c'est-à-dire normal par rapport à ces anomalies, aneuploïde, c'est-à-dire tout à fait anormal, mais il peut y avoir des stades intermédiaires. Et dans les équipes qui pratiquent le DPIA, il y a d'abord eu une politique d'écarter ces embryons, mais qui finalement aurait pu voir le jour chez certaines équipes qui finalement les ont transférés. Il reste encore des questions de transparence. Mais pour conclure, à l'heure actuelle de la réflexion, une majorité de professionnels souhaiterait une autorisation encadré, précédé bien sûr de travaux de recherche et avec une transparence parfaite vis-à-vis des femmes à qui ce serait proposé.
Merci pour cet éclairage, Sylvie Eppelboin. Effectivement, on entend qu'il y a toute une série de questions, parfois pour lesquelles il est difficile de répondre en avance d'ailleurs, avant que ce soit testé. Peut-être que Laurence Brunet voulait aussi aborder ce sujet.
Oui, je voulais revenir sur ce que Sylvie Eppelboin disait, à savoir qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, et soulever un point sur lequel, en tant que juriste, je pense pas trop dire de bêtises, c'est la question des autorisations qui ont été demandées par des équipes de recherche pour essayer de développer en France, dans le cadre d'un projet, d'un protocole de recherche assez vaste, des expériences de mise en place de ce fameux DPIA. Et contre toute attente, ces protocoles de recherche ont été interdits. Il y a eu des recours devant le juge administratif. Et ces deux protocoles de recherche, parce qu'il y en avait plusieurs qui regroupaient une bonne partie de la profession sur le territoire français, ont été annulés au motif que on ne pouvait que le ce type d'expérimentation n'était pas prévu dans la loi et que donc on pouvait pas le faire, ce qui pose la question de la liberté de la recherche en France, puisque par essence, et surtout Sylvie Eppelboin nous l'a dit, on ne sait pas très bien, on aurait besoin d'approfondir et d'affiner les indications dans lesquelles le DPIA serait utile, pas utile, enfin en tout cas de mettre en balance. Et curieusement, ce que les professionnels proposaient pour essayer de savoir pour que les, en tout cas, les professionnels français se fassent une idée, une appréciation, une religion par eux-mêmes, et en tout cas le pratiquent, n'a pas été possible. Donc aujourd'hui, en France, pour l'instant, en tant que le législateur ne lève pas cet interdit qui est en fait, qui a été formalisé par la jurisprudence, comme dans d'autres situations, eh bien, on ne peut pas le pratiquer. Et donc, les femmes, d'après ce qu'on entend, de ce qu'on lit et de ce que toi aussi tu vois, y est recours énormément dans les pays lorsqu'elles vont à l'étranger recourir à une procréation médicalement assistée. Elles en profitent et même parfois elles y vont essentiellement pour ça, pour avoir recours à un des pays.
Ce qui repose à la question de la liberté de circulation la difficulté de dépasser cette interdiction. Je crois que Sylvie Epelboin voulait rebondir.
Oui, je voulais juste préciser un point sur lequel je n'ai peut-être pas été clair quand je dis que la majorité des professionnels et par ces recherches qui ont été proposées souhaitent une évolution de la législation. Si on le souhaite, c'est pour une population particulière d'âge maternel avancé, d'échecs répétés de fécondation in vitro ou de perte de grossesse à répétition. Il n'est pas question pour les professionnels de demander l'ouverture au DPIA pour l'ensemble des femmes. Je voulais le repréciser, je n'étais pas sûre d'avoir été assez claire.
Bien sûr, donc un DPIA qui serait encadré finalement, Marie Ménil.
Alors je souscris pleinement à ce qui a été à la fois présenté par Sylvie Epelboin et Laurence Brunet, et je voulais simplement rajouter que en Espagne, effectivement, c'est souvent proposé en plus ce qu'ils appellent des plug-in, notamment aux femmes françaises qui se rendent encore massivement à l'étranger, et ça conduit notamment à ce que l'assurance maladie en fait ne rembourse pas les soins, précisément parce que le DPIA n'est pas prévu par la législation française, et donc alors qu'elles pratiquent une FIV, le fait qu'elles aient recours à ce DPIA, ça invalide l'entièreté finalement de la prise en charge financière de ces soins. Donc au-delà de la question aussi de l'indication médicale dans laquelle ça pourrait être mis en œuvre en France, ou en tout cas des facteurs de risque identifiés, de pouvoir mettre en place des protocoles expérimentaux, mais aussi ça permettrait aussi de prendre en charge les soins à l'étranger quand les femmes y ont recours, y compris pour cette raison.
Oui, ce qui interroge effectivement au regard des principes de liberté de circulation que Maria mentionnait au début, et donc le cadre juridique européen qui va peut-être décloisonner cet aspect. Oui, Maria.
Oui, justement, j'ai en tête un exemple concernant des vifs, y compris notamment en Espagne. Il me semble que les autorités françaises et plutôt les juridictions administratives avaient contourné dans une certaine mesure cette rigidité du système français en autorisant sur le fondement de la directive 2011-24 qui est relative à la libre circulation des patients, plus particulièrement la prise en charge financière c'est-à-dire le remboursement des soins prodigués à l'étranger. Et notamment, il y avait eu des vifs qui ont été pratiqués avec d'endovocytes en Espagne. Il me semble que c'est exactement en Espagne. Et cela a permis aux personnes qui ont recouru à cette procédure d'avoir un remboursement, certes partiel, de cette procédure, voilà, qui n'entrait pas encore dans le giron, dans l'évolution de la législation française. Donc voilà, peut-être le droit européen pourrait jouer par la suite une porte de sorte d'entrée pour faire évoluer la législation française.
Donc clairement, c'est à suivre. Sylvie Epelboin, pour conclure sur ce sujet.
Oui, je précise que votre discussion là est extrêmement intéressante, mais ne va pas tout à fait dans le sens de ce qu'à l'heure actuelle serait souhaité par l'ensemble, me semble-t-il, et de la profession et des associations de patients, qui seraient vraiment, je le répète, une prise en charge pour les femmes de plus de 35 ans ou ayant fait des fausses couches à répétition ou des échecs d'implantation. Et d'ailleurs, dans les projets qui peuvent être proposés, il y aurait l'exclusion pour le DPIA des femmes de moins de 35 ans et des donneuses d'ovocytes. Donc il n'y aurait pas cette offre pour laquelle vous dites qu'il n'y a pas eu de prise en charge, effectivement, mais ça n'est pas dans les projets. Les projets, c'est vraiment sur un public ciblé, souffrant et en ayant besoin.
D'accord, parfait. Merci beaucoup pour cette précision. Avant d'enchaîner avec nos deux autres sujets, nous allons avoir une courte pause musicale.
J'ai connu l'échec, la débauche et la dèche. J'ai connu les remarques que l'on fait sur mon sexe. J'ai connu des types bien et des types qui agressent. Je connais pas l'injustice d'un délit de faciès. J'ai appris des leçons de vie dans mes erreurs de jeunesse. Et j'en ferai encore, j'ai pas l'âge de la sagesse. Je cours après le bonheur, je prends de la vitesse vers la paix intérieure, c'est ça mon Everest. Anxiété m'appelle, j'ai peur de l'avenir. Peur des discours de haine faits avec le sourire. De la montée des extrêmes et celle des océans. De la nature humaine qui tue le vivant. Je sais pas si je veux des gosses, je sais pas si je serai une bonne mère. D'abord faudrait que je sache quel est mon rôle sur la terre. La mienne avait un boss qu'on appelle patriarcat. LVK, d'amnos, ramener un salaire chaque mois. J'ai parlé, fils, ma mec, une mec de ma meuf, pas la mère de fille, ils vont courir et ne reviendront pas. Mes copines n'écoutent plus les rappeurs, Jimmy Zoji me disent à chaque fois, fais un feat avec Youssoupha.
Oh, à la vie qu'on mène, aux grands rêves que l'on traîne et qui nous perdent gentiment, gentiment. Oh, à la vie qu'on mène. Et puis même si c'est la merde, il faut que je m'aime, sinon qui le fera plus que moi? Plus que moi. Qui le fera plus que moi? Plus que moi.
J'ai connu le minimum, maman n'avait pas le bras long. J'ai connu les hommes, j'ai pas connu mon daron. Mon enfance radieuse, belle comme un piano voix. J'ai connu des adieux qui à la base n'étaient qu'un au revoir. J'ai connu les maîtres de cérémonie dans les HLM. On était des alcooliques anonymes avant d'être célèbres. J'ai connu ceux qui m'ont aimé tant que j'avais des problèmes. Et j'ai connu ceux qui m'ont insulté pour que je progresse. Trop promesses. Y'avait pas beaucoup de saveurs, y'avait pas beaucoup de faveurs. Génération Sangoku, Mylène Farmer. Mes sœurs ne m'ont pas compris, génération désenchantée. Elles me voient en homme déconstruit, je suis encore un homme en chantier. Et ouais ma sœur, t'es une resta. Ne cherche pas à devenir l'égal d'un homme, tu vaux mieux que ça. Mes copines disent que c'est le monde qui est misogyne. Et peut-être que ça suffira pas de faire un feat avec Youssoupha.
Oh, à la vie qu'on mène, aux grands rêves que l'on traîne et qui nous perdent.
Nous venons donc d'écouter Plus que moi de Suzanne et Youssoupha. Et je peux vous dire que pendant la pause musicale, les discussions sur le DPIA ont continué. Mais nous allons avancer et parler maintenant donc de la loi méthode repas pour réception d'ovocytes de la partenaire. Mais je cède tout de suite la parole à Marie Ménil pour nous en dire plus.
Alors effectivement, la ROPA, c'est la réception des ovocytes de la ou du partenaire, qui est en fait une nouvelle méthode, ou en tout cas une nouvelle manière de faire de la procréation médicalement assistée, qui est en fait spécifique aux couples de femmes ou aux couples qui comportent un homme trans. L'idée étant en fait de partager, comme vous l'avez dit, les deux composantes biologiques de la maternité, à savoir l'une des femmes du couple porte un enfant, un embryon conçu avec les ovocytes de l'autre personne du couple. Cette méthode, elle a été discutée au moment des débats relatifs à la dernière loi de bioéthique, qui a donc abouti à l'adoption de la loi du 2 août 2021, puisqu'on a eu des amendements qui avaient été déposés pour officiellement permettre la technique, d'autres qui au contraire visaient à l'interdire, et finalement le législateur n'en a rien dit de spécifique, ce qui a conduit l'Agence de la biomédecine à affirmer sur son site internet que la pratique était interdite. Une affirmation qui a été en partie seulement nuancée par le Conseil d'État dans un arrêt du 19 juin 2024. Et puisque saisi à propos de savoir si cette technique ne devait pas pouvoir être mise en œuvre, notamment ou en particulier lorsqu'il y avait des indications médicales, c'est-à-dire que l'idée du recours, c'était de dire que la ROPA s'impose parfois comme la meilleure option thérapeutique, notamment lorsque une des femmes du couple souhaite porter l'enfant, mais ne peut pas le faire avec ses propres ovocytes, et que l'autre personne, l'autre femme du couple, dispose de cette réserve ovocytaire qui pourrait être salutaire. L'idée étant de dire que plutôt que de recourir à une tierce personne, une donneuse d'ovocytes extérieure au projet parental, la ROPA pourrait s'imposer, ce qui répondait par ailleurs, selon l'association requérante, au principe du droit médical, à savoir un principe d'économie, d'utiliser d'abord les ressources internes au couple et d'abord privilégier une méthode invasive au regard des personnes qui en tirent un bénéfice, les deux femmes coautrices du projet parental. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 19 juin 2024, offre une réponse générale en faisant valoir qu'il existe un principe d'anonymat du don d'ovocytes et qu'actuellement, en droit français, un prélèvement d'ovocytes ne peut avoir d'autre finalité qu'un don anonyme lorsqu'il n'est pas destiné à la réalisation d'une assistance médicale à la procréation au bénéfice de la personne qui a elle-même été prélevée. Autrement dit, le droit français, en fait, ne connaît que deux options lorsqu'on prélève des ovocytes, soit un don nécessairement anonyme à un tiers au projet parental, enfin un tiers, soit un prélèvement à son propre bénéfice pour une grossesse qui est portée par la personne directement prélevée. Autrement dit, l'AROPA dépasse le cadre actuel de l'assistance médicale à la procréation, alors que pour autant, on pourrait non seulement retenir les arguments qui étaient avancés devant le Conseil d'État, que parfois c'est la meilleure option médicale, et l'autre élément, c'est de dire que on peut aussi laisser les femmes choisir quelle est la meilleure technique, avec l'idée que les risques médicaux ne sont pas finalement plus important que, d'une part, pour celle qui est prélevée pour n'importe quelle ponction ovocytaire, que ce soit de l'autoconservation de gamètes, qui a été largement autorisée, que ce soit un don d'ovocytes, qui est également permis, et pour la femme qui reçoit les ovocytes de sa partenaire, les risques médicaux sont les mêmes que si elle était bénéficiaire finalement d'un don d'ovocytes d'une tierce personne. Donc, d'un point de vue médical, mais j'imagine que Sylvie Epelmoin pourra aussi compléter mon propos, on n'a pas d'enjeu particulier ou spécifique, ou en tout cas, il n'y a pas de sur-risque par rapport à d'autres techniques déjà permises et autorisées. Donc, la question qui se pose, c'est simplement, et puis on, en fait, sur les arguments juridiques, c'est simplement que la loi, la prochaine loi de bioéthique, permette cette technique pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Et la question, c'est soit de manière large, soit en reprenant la dialectique finalement un peu dépassée qui était uniquement lorsqu'il y a des indications médicales.
Alors justement, Sylvie Epelmoin, est-ce que vous avez des précisions plutôt sur le terrain médical à nous apporter là-dessus?
Je crois que Marie-Ménie l'a dit énormément de choses, fort juste, y compris sur le plan médical. Je reviendrai un petit peu à la demande des couples telle que... on peut la recevoir en consultation et cette idée du partage de la maternité, parce que ça, c'est du vécu clinique, peut-être pour éclairer les auditeurs sur le pourquoi de cette demande. Il est vrai qu'il y a juridiquement une comaternité tout à fait possible, légale, égalitaire dans notre droit, si j'ai bien compris et si je m'avance sur ce terrain-là. Mais c'est vrai que la maman qui a porté, comme au sein d'un couple hétérosexuel, a une mémoire de la grossesse, des échanges avec l'enfant pendant ce temps de gestation qui est extrêmement précieux, valorisé dans toutes les sociétés, de même que la mise au monde qui est un élément fondateur de la naissance d'un enfant. Alors, bien sûr, dans un couple de femmes, chacune à son tour, s'il y a un projet de plusieurs enfants, pourrait avoir recours à un don de spermatozoïdes et chacune mène sa grossesse. Ce n'est pas totalement le sujet aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça serait tellement mieux que chaque femme ait son enfant, entre guillemets. On n'a pas trop l'expérience et certainement d'autres problèmes en seraient issus. Là, il s'agit d'un partage où il y a une espèce de symbiose au sein du couple qui est demandée de façon souvent assez fleurie par les femmes, mais assez émouvante. Sur le plan purement médical, Marie l'a dit, il y a des risques qui sont parfaitement gérables à l'heure actuelle sur le plan obstétrical. Le premier risque au niveau des grossesses, c'est l'augmentation des troubles vasculaires que l'on connaît dans les dons d'ovules et les dons de spermatozoïdes, mais et dans les accueils d'embryons. Mais finalement, il suffit de faire une prévention de cette pathologie qui est assez grave, qu'on appelle la pré-éclampsie, et dans un suivi tel qu'il y a dans toutes nos maternités en France, cela doit pouvoir s'établir, aussi bien que dans les grossesses, comme vous l'avez dit, de dons d'ovules, de dons de spermatozoïdes ou d'accueil d'embryons. Un petit point un petit peu différent sur le plan médical, c'est que si une insémination est possible chez la femme qui va porter l'enfant avec ses propres ovules, parce qu'il n'y a pas de problème d'altération des trompes, eh bien, c'est certainement plus simple pour la femme, moins médicalisé, moins à risque et moins cher pour la société que l'obligation de passer par une fécondation in vitro, la stimulation hormonale pour l'une et le recueil chirurgical des ovules et le transfert embryonnaire chez l'autre. Financièrement, il n'y a pas de comparaison, l'une est plus chère que l'autre. Mais bon, c'est simplement intégré dans le dossier. Et médicalement, il y a un certain nombre de risques de la ponction. Mais comme ça a déjà été dit, comme on l'admet pour d'autres femmes qui n'ont pas une infertilité absolue, y compris d'ailleurs dans les FIV intraconjugales, où le corps de la femme est traité potentiellement pour une anomalie de la fertilité chez l'homme. Donc quand un homme n'a pas de spermatozoïdes et qu'on fait une fécondation in vitro par micro-injection chez la femme, le problème est le même, comment traiter quelqu'un pour une pathologie de l'autre. Et je rajouterai un élément, celui des embryons surnuméraires, qui nous soucie beaucoup, parce que si la première femme a eu justement une fécondation in vitro parce qu'elle avait une indication de fécondation in vitro et non pas d'insémination, elle a pu être enceinte, accoucher d'un embryon, avoir des embryons surnuméraires. Et c'est vrai que ça nous paraît d'une évidence absolue que cet embryon pourrait être transféré chez l'une ou chez l'autre. Donc là, il s'agit juste d'un transfert d'embryon et il n'y a plus de stimulation, de ponction, etc., etc., sur un plan médical. Puis je vais passer le relais à Laurence Brunet pour qu'elle explique la discrimination qui a pu s'établir entre les couples de femmes et les couples hommes-femmes dans cette situation qui est particulièrement, à mon avis, fragilisante pour les couples.
Oui, donc d'abord, avant de répondre, de préciser cette question des embryons surnuméraires, je voudrais dire quand même que l'AROPA se heurte à des tas de difficultés, mais juridiquement, il n'y en a pas. Parce que la femme qui accouchera sera la mère, donc, et celle qui aura donné son ovocyte pourra faire, dans le cas d'une procréation médicale assistée qui nécessitera forcément un don de spermatozoïdes, une reconnaissance conjointe anticipée, et donc les deux femmes seront mères à égalité. Donc ça ne brouille pas les liens de filiation, ce genre de choses. Ça peut très bien s'intégrer dans le cadre juridique actuel. Alors, concernant les embryons surnuméraires, là, il y a vraiment une difficulté, puisque, comme le disait Sylvie Epelboin, les embryons faits au bénéfice de la première femme ne pourront pas être utilisés par la seconde, pour une seconde grossesse, puisque on considérerait que les ovocytes qui ont permis la conception des embryons seront utilisés par la seconde femme, et donc ça serait une ROPA, donc un don dirigé, donc c'est impossible, comme Marie Ménine l'a rapporté. Donc, on arrivait à la situation un peu compliquée de ne pas pouvoir utiliser ces embryons. Donc, ce qui a été réglé dans le cadre de l'arrêté de bonne pratique, aujourd'hui, même s'il reste des embryons, normalement, quand il reste des embryons à un couple, dans un couple hétérosexuel, on ne peut pas recommencer un protocole de fécondation in vitro. L'idée, c'est que d'utiliser ce qu'il y a plutôt que de refaire à partir de zéro. Et là, à cause de cet interdit qui paralyse l'utilisation des embryons faits avec la première femme, on est obligé de recommencer un protocole de FIV de zéro. Bon, pourquoi pas, hein? C'est effectivement, ça a un coût, mais ça veut dire que ces embryons, on va recréer des embryons. Enfin, si on fait un protocole par ROPA, FIV, stimulation, prélèvement des ovocytes, création, conception de nouveaux embryons que la seconde femme va utiliser. Et les premiers, s'il en reste 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça veut dire que, à terme, ce que la profession a redouté, c'est que finalement, lorsque les femmes auront fini leurs projets parentaux au pluriel, eh bien, il va rester des embryons qu'il va falloir donner ou détruire. Voilà. Donc ça pose quand même un problème, ça pose un double problème éthique, et celui-là, il a vraiment, on l'a pas vu tout de suite, hein, mais il est apparu finalement de manière avec beaucoup d'acuité ensuite.
Oui, effectivement, il y a des questions éthiques, il y a des questions médicales et juridiques et humaines, comme vous l'avez rappelé, docteur Sylvie Eppelbois, si vous voulez préciser.
J'ai le souvenir de ma petite place tout en haut à l'Assemblée lors de la loi de 1994, plutôt au Sénat, pardon, où les sénateurs discutaient de qu'est-ce que c'est qu'un embryon et est-ce qu'on va autoriser la congélation embryonnaire. Et en fait, tout le débat, c'était les ovules et les spermatozoïdes, ce sont des cellules humaines. L'embryon, ce n'est pas une personne humaine, attention, sinon on va toucher à l'IVG, etc. Mais c'est une personne humaine potentielle. Donc le mot de potentiel et le mot de projet ont vraiment permis de dénouer des tas de situations. Mais nous avons été éduqués depuis ce temps-là, nous, médecins, et c'est ce que nous disons aux patients, sur le fait que un embryon, on fabrique pas un embryon pour n'importe quoi. Si on sait qu'une femme a une possibilité ovarienne très importante, on va faire une stimulation ovarienne relativement douce pour essayer d'avoir peu d'embryons, parce que, notamment si elle est jeune, bah, elle va être enceinte assez rapidement, pour qu'on n'ait pas des stocks d'embryons surnuméraires, pour lesquelles les personnes doivent se déterminer entre la destruction, le don à la recherche ou le don à un autre couple, ce qui est extrêmement compliqué. Et là, on a des embryons qui font remettre en question cette idée de personne humaine potentielle. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait tous les jours au laboratoire des embryons qui sont jugés non évolutifs et qu'on va non pas jeter, ça c'est dans le vocabulaire courant, mais qui ne vont pas avoir d'existence parce qu'ils se désagrègent d'eux-mêmes. Comme si la congélation embryonnaire conférait une parcelle d'humanité supplémentaire, puisque on s'est intéressé à des embryons qui ont l'air bien évolutifs. On les a congelés, ils sont là, et ils méritent un certain respect, en tout cas pas celui de dire « bah tant pis », on va refaire chez l'autre au lieu de les utiliser. C'était cet aspect, ce regard clinique pratique. C'est avec lui que je voulais conforter les projets, les propos de Laurence Brunet que je partage tout à fait.
Merci. J'ai l'impression que ça nous offre une très belle transition finalement, justement, sur le dernier sujet qui est la question de la procréation post-mortem. Je cède la parole à Laurence Brunet pour nous en parler.
Bon, alors la procréation, l'interdiction, on peut même dire que c'est une prohibition, tellement elle a peu bougé depuis 94, c'est donc l'interdiction de procréer post-mortem. Bon, ça concerne évidemment le cas où le compagnon ou le conjoint décède, il faut quand même qu'une femme puisse porter, et qui donc interdit l'utilisation soit des gamètes masculines qui ont été conservées, soit l'utilisation des embryons congelés qui peuvent avoir été conçus et être conservés. Donc ça concerne les cas où le parcours a commencé, de procréation médicale assistée, et puis de manière inopinée, ou pas vraiment inopinée dans le cas où l'AMP a commencé dans le cadre où une personne était déjà atteinte d'une maladie grave, ce qui est aujourd'hui une des recommandations du plan cancer. Hein, les personnes qui sont atteintes de cancer et dont les gamètes risquent d'être affectées peuvent faire une préservation et donc réutiliser leurs gamètes lorsqu'ils vont mieux, mais quelquefois ils vont momentanément mieux et ensuite ils vont moins bien. Donc on a de plus en plus de cas où effectivement on a des situations où le parcours de procréation a commencé et puis l'homme décède. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces gamètes ou de ces embryons ? Alors la législation n'a pas changé d'un iota hein, depuis 94. Ça fait partie des grands principes dits universels, anthropologiques, structurants de la société française. Les idées étant que on peut pas se survivre indéfiniment après qu'on est mort, les hommes doivent pas se croire immortels, les femmes sont des pauvres petites veuves qui sont vulnérables, qui peuvent pas réfléchir après la mort de leur compagnon. Et puis, sans doute aussi, la justice a dû se dire que c'était très compliqué de geler les successions pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans, hein, entre le moment où il y a des embryons congelés ou des gamètes congelés et puis le temps qu'on se donnera pour pouvoir les implanter et avoir, les transférer et avoir éventuellement la naissance d'un enfant. Donc, ça n'a pas changé depuis 1994. Ça s'est encore plus renforcé puisque cette interdiction de faire de la procréation post-mortem en France a été prolongée hein, dans le à partir des années 2000 par l'interdiction de demander à ce que les gamètes ou les embryons conservés dans le cadre de ce protocole, hein, de ce parcours d'AMP, soient exportés dans un pays qui l'autorise, dans certaines conditions, je parle en particulier de l'Espagne, où il est possible de recourir, enfin de demander à procéder à une procréation post-mortem dans les 1 an du décès, si l'homme a bien donné son consentement à ce transfert. Donc, il n'est pas possible, sauf dans des conditions très exceptionnelles, pour une Française, la femme veuve qui reste, de demander l'exportation de ses gamètes ou de ses embryons dans un pays qui l'autoriserait. Pour ça, les quelques cas où ça a été admis à titre compassionnel ou exceptionnel, ça serait le cas où la femme est elle-même espagnole, hein, où elle résidait en France de manière accidentelle et elle rentre chez elle dans un pays où la procréation médicale assistée post-mortem est possible. Donc, vraiment, il y a eu plusieurs dizaines de décisions judiciaires, administratives, du Conseil d'État pour dire s'il n'y a pas une situation très exceptionnelle avec des liens géographiques avec le pays où vous voulez demander l'exportation, c'est pas possible. Et donc, votre seule solution, c'est de les donner à notre couple ou de les détruire. Alors, les choses sont devenues pas claires, incohérentes à partir du moment où, en 2021, le législateur a permis aux femmes seules de recourir à un don de gamètes. Donc, on arrive à la situation suivante qui a été dénoncée, qui a été pointée, pas véritablement dénoncée, mais en tout cas la Cour européenne, à l'occasion d'une affaire où elle a été saisie de ces questions, l'affaire Barré-Caballero de 2023, la Cour européenne s'est permis de dire à la France qu'il y avait quand même un petit grain de sable dans l'ensemble qui faisait grincer l'ensemble du système, puisque ces femmes veuves deviennent des femmes célibataires. Donc, elles pourraient recourir à une procréation médicale assistée avec un don de sperme d'un inconnu ou accueillir un embryon d'un couple inconnu. Ça, c'est possible. En revanche, il est impossible pour elles de bénéficier des gamètes qui ont été mis de côté pour le couple ou des embryons qui ont été conservés pour le couple parce que le compagnon ou le conjoint est mort. Donc, la Cour européenne s'est permis de dire il y a quand même une incohérence qui mériterait que la France remette cette interdiction en discussion. Pour l'instant, on n'y est pas. Hein, la France n'a absolument rien changé. On espère vraiment que c'est une des innovations ou des évolutions, pas innovation, des évolutions qui va arriver, d'autant que ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que des couples sont allés à l'étranger faire des procréations médicales assistées dans des cas où parfois l'homme était déjà atteint, était un peu plus vieux que la femme ou atteint d'une maladie. Et donc, ces embryons ont été conservés à l'étranger, l'Espagne pour ne pas la nommer. Et là, la procréation post-mortem a pu avoir lieu parce que la femme française, bénéficiant de cette fameuse circulation dont on a déjà beaucoup parlé, a pu demander à bénéficier de la législation espagnole pour que les embryons, dans les deux cas auxquels je pense, soient transférés dans son utérus et les enfants sont nés et sont rentrés en France. Et là, les juges étaient bien embêtés hein, parce qu'il fallait reconnaître la filiation et il fallait reconnaître un droit de succession. Et je finirai là, la Cour d'appel de Paris a été saisie il n'y a pas longtemps de ces deux affaires. Elle a rendu deux décisions le 14 octobre 2025 reconnaissant la filiation et la vocation successorale de ces deux enfants.
Décidément, l'Espagne est assez singulière. On pourrait, je crois, en faire tout un podcast pour savoir comment ça se passe là-bas. Mais peut-être Marie Ménil voulait aussi apporter quelques éléments.
Oui, je voulais compléter ce qu'a dit très justement à l'instant Laurence Brunet sur l'incohérence qui avait été effectivement pointée du doigt par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises, réaffirmant que le législateur avait entendu maintenir, au moment de la dernière loi de bioéthique, l'interdiction de la procréation post-mortem. Si on regarde un petit peu les débats, l'interdiction, elle a été essentiellement maintenue parce qu'en fait, les parlementaires trouvaient que c'était compliqué d'organiser les questions de filiation et de succession. Mais globalement, on a quand même l'impression qu'il y a une espèce de compassion commune à l'égard de ces femmes. Ce qui justifie le maintien de l'interdiction, finalement, c'est la technicité juridique que demanderait justement l'organisation de la filiation et de la succession, ce qui se réfléchit et s'organise. Donc le Conseil d'État s'est notamment prononcé dans un arrêt du 28 novembre 2024 en disant que cette incohérence entre la situation de la femme seule et de la veuve n'en était pas une, parce qu'en fait, pour le Conseil d'État, ces femmes ne sont pas placées exactement dans la même situation, puisque pour les femmes qui ont perdu leur compagnon en cours de projet parental, précisément, on avait une deuxième personne dans le projet parental, et donc, pour le Conseil d'État, on n'est pas dans la même situation que dans le projet d'une femme seule qui, dès l'origine, a un projet parental à l'issue duquel l'enfant n'aura qu'une filiation maternelle. Sous-entendu que l'autre branche de la filiation paternelle reste quant à elle disponible et pourrait être occupée par quelqu'un. Donc, voilà. Non, mais c'est la position du Conseil d'État qui répond en tout cas sur les aspects juridiques pour dire que, à son sens, au sens du Conseil d'État, on n'a pas d'incohérence, on a une compatibilité de l'interdiction avec la Convention européenne. Et l'autre point que je voulais soulever, c'était sur la conception qu'on a de la procréation post-mortem qui, à mon sens, devrait un petit peu être modifiée par aussi l'autre évolution qui a été introduite par la loi du 2 août 2021, à savoir l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, puisque jusqu'à présent, tous les dossiers contentieux notamment dont la justice a été saisie concernaient le décès effectivement d'un homme dont les gamètes étaient en cause, soit sous forme de gamètes de spermatozoïdes congelés, soit déjà sous la forme embryonnaire. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est aussi de s'interroger sur quel est le sens finalement de la procréation post-mortem. Est-ce que c'est uniquement la continuité du patrimoine génétique de la personne décédée, ou est-ce que c'est la continuité d'un projet parental déjà amorcé qui devrait, dans ce cas, dans ce deuxième cas, pouvoir être étendu aux assistances médicales à procréation avec tiers donneur, notamment au sein des couples de femmes. La compagne qui serait décédée en cours de projet parental devrait, même si c'est pas ses gamètes, et on pourrait discuter de la ROPA post-mortem, mais ce serait peut-être un podcast à part entière, la compagne prédécédée devrait aussi pouvoir établir sa filiation et que l'enfant devrait également pouvoir avoir une vocation successorale. Donc c'était simplement ce petit point pour voir où on situe le débat. Est-ce que c'est vraiment sur les ressources biologiques, qui est un élément important, mais qui, à mon sens, ne devrait pas être le seul si on s'intéresse quand même plutôt à la notion de projet parental.
Ouais, sujet hautement éthique, effectivement, la question de la procréation post-mortem, mais on entend aussi le côté très humain et pragmatique. Une femme seule reste une femme seule, quelle que soit sa situation antérieure, finalement. Mais médicalement, ce n'est pas tout à fait exact ce que dit le Conseil d'État, finalement. Docteur Sylvie Epelboin, est-ce que vous voulez aussi ajouter votre mot?
Alors, effectivement, on pourrait rester des heures sur cette question. Néanmoins, rappelons-nous que cela concerne 3 à 6 demandes par an sur les 160 000 tentatives de fécondation in vitro. Donc, je pense qu'il y a un enjeu hautement symbolique et qu'on a tout à fait raison d'en discuter, mais que une acceptation encadrée comme le souhaitent les patients, le public et les professionnels n'entraînerait pas une révolution majeure autre que symbolique. Alors symbolique pourquoi ? Quelques réflexions plus d'ordre enfin médical, psychologique, anthropologique, qui sont échangées dans les groupes de réflexion autour de tous ceux qui voient notamment une instrumentalisation du corps du défunt à travers la demande éventuelle des femmes, voire de la famille du défunt, les parents du défunt souhaitant une grande parentalité génétique à travers la grossesse de la femme. Mais à cela s'oppose l'idée de d'autres qui est que la mort n'interrompt pas nécessairement la notion de projet parental et que permettre la naissance d'un enfant désiré peut être aussi une forme de fidélité au lien et de transformation de la perte en projet. La deuxième notion, c'est que la demande survient toujours dans les quelques cas qu'on a pu étudier. Moi, j'en ai vécu personnellement, dans un temps de deuil aigu et qu'il faut savoir temporiser. On dit toujours que le temps joue énormément dans le fait d'avoir un enfant. Il joue pour parce que il faut prendre le temps de concevoir une conception. J'emploie ce pléonasme haïtien. Mais d'un autre côté, parfois le temps on joue contre parce qu'il faut faire très vite, étant donné que la fertilité féminine est sur un temps relativement limité. Et là, on a été amené à évaluer des temps, et c'est d'ailleurs ce qui a conduit à des recommandations dans les pays européens limitrophes. On dit qu'il faut un temps minimal. C'est-à-dire pas tout de suite, le temps que le deuil soit un petit peu apaisé, si tant est qu'il s'apaise jamais, mais que la demande puisse être bien formulée. On a dit qu'un temps minimal de 6 mois serait pas mal, mais qu'en même temps, pour essayer de rétablir des rapports de filiation qui soient à peu près homogènes par rapport au compagnon ou à la compagne de la maman, peut-être qu'une date comme 18 mois serait limite, serait nécessaire. Donc on est entre 6 et 18 mois. C'est quelque chose, en tout cas, que l'on souhaite être placé dans le débat. L'importance du recueil du consentement. Alors ça, c'est quelque chose qui nous importe. Vous savez que avant toute fécondation in vitro, les gens signent un accord pour une technique. Et alors, on détaille énormément, c'est-à-dire la stimulation, la ponction, le transfert, etc., etc. Et qu'il y a aussi sur nos consentements très officiels, qui sont déterminés dans les guides des bonnes pratiques, il y a le fait que, en cas de décès, celui des deux qui, ou de séparation, celui des deux qui survit ne peut pas bénéficier, etc., etc. Et là, il nous semble que on prononce déjà le mot décès, donc ça ne saurait pas heurter les gens en début de procédure, que de leur demander, parmi d'autres choses, parce que tout le monde ne meurt pas comme ça en faisant une fécondation in vitro, est-ce que il y aurait l'accord pour ? Et donc, avec le consentement, ça permettrait ensuite de faire une ouverture qui serait non pas générale et laxiste, mais une non-interdiction systématique comme on a à l'heure actuelle, et une ouverture avec peut-être, vu la rareté des cas, une instance composée de professionnels, de personnes, un petit peu comme il y a la CAPAD pour l'accès aux origines, qui puisse recueillir les demandes et les analyser, avec le dernier argument qui est toujours présent, qui est l'argument de l'intérêt de l'enfant. Donc, alors, qui peut parler de l'intérêt d'un enfant qui n'est même pas encore conçu ? Personne. En anglo-saxon, on dit le welfare being, etc., etc. En fait, on ne sait pas grand-chose. Ce que nous disent, en tout cas, les psychologues et les psychiatres, c'est que l'argument que la privation programmée d'un parent dès la conception poserait une question de justice envers l'enfant, peut-être. Mais sur le plan psychologique, identitaire, et vous avez dit successoral, personne ne peut retenir cet argument. Donc il faut le poser, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retenir, comme c'est retenu à l'heure actuelle, comme argument contre. Au total, la position que la commission d'éthique de la FFER a déposée auprès du CCNE lors de notre audition, ça a été la demande d'ouverture encadrée, la demande que soient modifiés les consentements de début de procédure pour qu'il y ait aussi ce consentement. Et puis, bien évidemment, une ouverture bienveillante vers d'autres situations, parce que ça semble évident quand il existe des embryons, parfois un petit peu moins quand il existe des gamètes autoconservés par l'homme en dehors du projet parental.
Merci pour ces précisions. Toutes ces situations humaines individuelles, alors parfois, effectivement, il y a assez peu de personnes qui sont concernées, sont néanmoins très intenses. Donc, on a fait un peu le tour de la question de la ROPA, du DPIA, ROPA post-mortem, peut-être les deux. Et avant de conclure définitivement, je voudrais quand même laisser la parole à Maria Fartounova.
Oui, merci Tania. Merci beaucoup à nos trois invités d'avoir livré leur expertise sur ces trois thèmes. Et je souhaiterais rebondir vraiment en guise d'ouverture pour d'autres podcasts. J'ai entendu qu'il en a au moins encore deux pour faire encore une fois cette rencontre ensemble. Rebondir sur ce qui a été dit sur le consentement et je pense post-mortem effectivement. Et je pense qu'il y a une affaire qui va rebattre encore une fois les questions qui ont été évoquées, non pas dans le domaine de la PMA, mais dans le cadre de la filiation, parce qu'il y a une affaire qui est actuellement pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne, puisque la juridiction française de Chambéry a été saisie d'une demande de mesure d'instruction par une juridiction italienne en vue d'établir la filiation envers d'un ressortissant français qui est décédé par son enfant illégitime. Et donc, les enfants légitimes ont refusé le prélèvement ADN et donc la juridiction italienne avait saisi la juridiction française en vue d'exécution d'une mesure d'instruction par prélèvement ADN post-mortem et donc avec sur le corps du défunt. Or, le défunt n'avait pas donné son consentement antémortem. Et donc la question se pose encore une fois, cette fois-ci pour l'accès aux origines, comment on va faire évoluer les législations nationales là où des questions éthiques et des choix éthiques vont s'entrechoquer encore une fois, cette fois-ci dans l'intérêt encore une fois de ce parieur de l'enfant.
Merci beaucoup Maria, c'était effectivement utile de rappeler que ce sujet de conversation va continuer. Tous les trois thématiques risquent de continuer à être des sujets d'actualité. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Maria Fartounova, professeure en droit public, pour nous avoir réunis avec le docteur Sylvie Eppelboin, gynécologue obstétricienne, Marie Ménil, maîtresse de conférences en droit privé, et Laurence Brunet, chercheuse associée en droit à Paris 1, qui nous a aussi accueillis. Merci à vous toutes. Je dois aussi souligner le fait que c'est toujours positif d'être des femmes qui parlons du corps des femmes, car ce n'est pas systématiquement le cas, et il faut donc bien que ça continue dans ce sens. Pensez aussi à vous abonner à Amicus Radio et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être tenu au courant des diffusions de nos épisodes. À bientôt sur toutes les plateformes de podcast.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.